Je pense que vous m'entendez ainsi sans micro. Oui. Si, non, parce que... Je préfère. Combien de fois, chers amis, ai-je entendu, et vous sans doute aussi, combien de fois dans un sale moment, un temps de souffrance, de malheur, de deuil, cette phrase. Mais vous, au moins vous avez de la chance, vous avez la foi. Une phrase qui me met souvent mal à l'aise. Une chance, vraiment. Pas toujours en tout cas. Mais ma perplexité vient surtout de cette pensée qui alors me trotte dans la tête. Mais que veut-il, que veut-elle dire par avoir la foi? Et c'est la question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une réponse, je vous la donne maintenant, selon la traduction Second classique, vous savez, le tout vieux Second, début du siècle passé. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le problème, c'est que lorsqu'on tourne et retourne cette phrase, dans nos têtes, elle se présente peu à peu à nous comme un gag. Excusez-moi. L'assurance ferme des choses qu'on espère. Mais si ces choses-là sont de l'ordre de l'espérance, ça implique précisément qu'elles ne sont pas certaines. Si je sais que demain il fera beau, je veux dire, si je sais, si je suis déjà demain, quoi, si je sais, eh bien, je ne l'espère pas. Si je l'espère, c'est justement que je n'en suis pas totalement certain. Quant à la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça nous pose aussi un problème à nous, à l'aube de ce troisième millénaire. Là, alors que la science est par excellence le lieu de la démonstration, la science nous propose des processus de compréhension, de preuve d'un objet de pensée, d'un objet quel qu'il soit, mais jamais d'un objet non identifié. Comment pourrait-on démontrer une chose qu'on ne voit pas? Impossible. Je vous dis, c'est un gag. Peut-être qu'il s'est moqué de nous. Peut-être... Aussi a-t-il, à un moment donné, renoncé tout bonnement à objectiver la foi, c'est-à-dire à l'expliquer, à la penser. Doit-on y voir un aveu de faiblesse intellectuelle devant l'inexplicable, devant ce que d'aucuns appellent volontiers, depuis longtemps, mais encore aujourd'hui, le mystère de la foi? J'y reviendrai au mystère de la foi. Mais d'abord, ce sacré verset 1 du chapitre 11 que vous connaissez, madame, et moi aussi depuis fort longtemps, parce qu'on nous le faisait apprendre par cœur dans la version Seconde, s'il vous plaît, et on nous le faisait comprendre aussi comme un véritable bouclier contre ce qui apparaissait à l'époque comme la menace majeure, la pensée, la logique, la théologie. La foi ne pouvait en aucune manière être saisie à l'aune de la raison. Alors, qu'est-ce qu'il restait? Eh bien, il restait le secours du mystère. Personnellement, je ne suis pas très chaud a sollicité le mystère en matière de foi. Comme si la foi échappait à toute rationalité. D'ailleurs, le savez-vous, sans doute, oui, le mot mystère, mysterion, si je me souviens bien, en grec, dans la Bible, est extrêmement rare. L'Ancien Testament n'en parle même pas. Dans le Nouveau, je crois, 3 fois. Extrêmement rare, peut-être 4. Il y a l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, qui l'utilise, aux Colossiens aussi, en parlant du mystère du Christ. Mais c'est aussitôt, immédiatement, pour dire qu'il n'y en a plus de mystère. Que ce mystère a été dévoilé, à savoir, mais je ne veux pas entrer dans le détail de l'Épître aux Éphésiens, à savoir que désormais, les non-juifs et les juifs font partie du même corps. Donc, si je résume juste cette petite question, quand la Bible parle du mystère, c'est-à-dire presque jamais, c'est pour dire qu'il n'y en a plus de mystère. Alors parler du mystère de la foi depuis 20 siècles, c'est un peu costaud. Alors nous voilà reportés quand même à cette question de départ et cette drôle de définition des Hébreux. Certitude, je pousse un peu la traduction, certitude des choses qu'on espère, démonstration de l'invisible. Ce serait ça la foi. Et si par ces mots, chers amis, l'auteur biblique avait voulu, avec un peu d'ironie, nous inviter à entrer dans un chemin de foi, bien sûr, mais un chemin de compréhension de ce que pourrait être la foi. Alors je vous invite à suivre ce chemin. Au cours des siècles, les théologiens ont sérieusement planché sur la question. Nous ne sommes pas les premiers ce matin à Villars-Lausanne de nous poser la question. Et je suis obligé pour ça d'utiliser la langue latine, mais je suis sûr que vous connaissez tous le latin. Moi, je ne le connais pas. Donc, vous êtes tranquille, mais je sais ce que veut dire à peu près ce que je vais raconter. Donc, les théologiens ont distingué entre la fides qua creditur et la fides quae creditur. Vous voyez que c'est pratiquement la même phrase. Il y a le mot foi, il y a le mot croire dans les deux cas. Et puis un petit mot au milieu, une conjonction. Dans un premier cas, c'est quoi, puis dans l'autre, c'est quae. Il y a juste un petit et qui change tout. Il y a cette distinction qui a été faite depuis longtemps et qui fonctionne, vous verrez, assez bien encore aujourd'hui. Il y a la foi avec laquelle on croit et il y a la foi que l'on croit. Dit autrement, il y a l'élan de foi qui nous pousse à croire. Mais, et puis ça, c'est la foi, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi ce qu'on croit, le contenu, et ça, c'est aussi la foi. On peut encore davantage ramasser la formule en disant, il y a la confiance, il y a la croyance. Et pour bien asseoir notre réflexion, je me réfère à un théologien, Gounel, André Gounel, qui dit, la fides quoi désigne la présence active de Dieu en moi qui me saisit, me travaille, me transforme, me met en communion avec Dieu. Elle est suscitée par Dieu, mais elle englobe aussi ma réponse. Elle est une relation. Ça, c'est la fides quoi. La fides quoi se rapporte à ce que je crois. Ce que je tente de comprendre, parfois difficilement, et de formuler de mon lien essentiel ou existentiel avec Dieu. Alors, je vous propose maintenant, on a cette sorte de typologie, de définition, de porter à nouveau nos yeux sur le texte biblique. Que découvrons-nous ? Y est-il davantage, puisque vous êtes devenus des latinistes chevronnés, y est-il dans la Bible davantage de questions de fides quoi ou de fides quoi? On dirait de quoi tu parles, mais enfin. Prenez Abraham. Abraham connaît-il ce Dieu qui se met à lui parler? Et il semble bien que non. Ce Dieu lui dit, pas n'importe quoi, il lui dit, vas-y, pars avec toute ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Tu quittes ton pays, tu quittes la maison de ton père. On discutait hier avec une équipe, comme ça, j'aime bien discuter avant les prédications, avec les gens qui tombent sous la main, comme ça. Et il me disait, mais c'était facile de partir pour eux, ils étaient nomades. Ah ben, le texte nous dit qu'ils quittent la maison. Donc je ne suis pas si sûr. Peut-être que oui, je ne sais pas. Alors vous voyez que, en plus, ouais, j'ai oublié de vous dire ça, mais vous le savez, il quitte sans savoir où il va, puisqu'il lui dit « je te montrerai le chemin en route ». Au moins, vous savez, vous. Ah, c'est peut-être un peu perdu, mais... Alors, je dirais, la foi d'Abraham s'apparente à une prise de risque pas très, très raisonnable. La définition que j'en donnerai ici. Il n'y a pas de contenu du tout, il y a juste un acte, un risque. Moïse, lui, fait pire, il entraîne pas seulement sa famille, mais tout un peuple, le peuple des Hébreux. Ce peuple, il a certainement des traditions, hein. Il a un culte, etc., un dieu, mais l'appel qu'il reçoit excède complètement, totalement, cet aspect de la religion que peut-être il connaît. C'est complètement fou et complètement irréaliste. Alors forcément, Moïse, il veut savoir. Il veut savoir qui lui parle. Et quand il demande à celui qui lui parle, celui-ci répond, « Je suis celui qui est. » En fait, c'est plus court. « Je suis, je suis. Je suis, je suis. » Vous voyez qu'il y a de l'humour dans la Bible, hein ? Ça, à mon avis, c'est aussi une plaisanterie, ça. Pas seulement, mais il y a un petit peu de la plaisanterie. Dieu, peut-être, se moque un peu de nous. Il joue un peu avec nous, avec notre image, nos imaginations, nos représentations. Il nous balade, si vous voulez. Il ne veut pas que nous fixions un Dieu en notre esprit. Imaginez, chers amis, vous rencontrez quelqu'un qui veut vous embarquer dans une aventure impossible. Vous lui demandez forcément qui il est, vous ne le connaissez pas. Il sourit et baragouine une réponse improbable. Je suis qui je suis. Et voilà. Comme si, chers amis, l'important n'était pas là du tout, dans la foi. Comme si l'important était simplement dans le fait de se mettre en route. Sans savoir au préalable. Et quand on sait, enfin quand on suppose, pardon, je dirais, que la meilleure traduction, c'est celle que tu as lue, Étienne, je ne sais plus qui, non, toi, Christian, savoir « je suis qui je serai », alors ça se gâte encore plus, parce qu'on est renforcé dans l'idée de la foi comme une route, comme un déplacement, un exode, un exil. Qui je serai ? T'inquiète, comme dirait mon petit-fils, tu le découvriras bien en chemin. Eh bien, troisième exemple, c'est pareil, vous l'avez entendu dans l'Évangile. Quel peut bien être le contenu de la foi des disciples quand ils laissent tout en plan pour suivre Jésus ? Qui leur dit « Accompagnez-moi », meilleure traduction. Et il y a aucun contenu. Il n'y a même pas une promesse. Abraham, il avait au moins une promesse. Il y a juste une phrase totalement incompréhensible. « Je vous ferai pêcheur d'hommes ». La belle affaire pour des pêcheurs de poissons, je pense qu'ils vont mettre du temps à comprendre. Quel désespoir, quelle frustration, chers amis, a bien pu habiter ses disciples pour laisser tout en plan comme ça. Je me pose la question parfois, y compris leur père. Et tous, plus surprenant encore, les 12, poursuivront, persisteront, persévéreront pendant de longs mois, quand bien même ils ne comprennent rien à rien de ce que dit Jésus, ni où ils veulent les conduire. Je regrette, mais ce n'est pas faux ce que je dis, hein. C'est à peu près juste, je crois. Et cette situation-là perdure jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Jésus. Chers amis, vous aurez de la peine à vendre le produit Jésus dans notre monde, où l'image, la présentation de la mission sont devenues plus importantes que la personne et la mission elle-même. Bien sûr, peut-être que vous le faites, le SME, je ne sais pas. Bien sûr, on pourrait enjoliver un peu l'histoire, aplanir le chemin, rendre Jésus un peu plus séduisant et compréhensible, plus gendre idéal, si vous voulez, et surtout plus raisonnable. Mais ce faisant, on passerait à côté de l'essentiel. La puissance de Dieu qui nous sauve, et je vous propose une définition, c'est-à-dire qui nous tire de l'insignifiance. Comme Paul finalement le théorise, et vous remarquerez, parce que vous êtes très attentif, je vois, que je passe, et latiniste, je passe du fides quoi au fides quoi, avec Paul, évidemment, qui dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, elle est puissance de Dieu. » Alors, je dois conclure déjà sur un point. Je ne suis pas tout à fait fini, mais je m'en approche. Hein. Patience. La Bible présente, je crois, la foi en priorité comme une relation de confiance. Il n'y a pas de doute. Une relation de confiance qui se tisse peu à peu entre Dieu et l'humain. Cette relation part toujours de Dieu. Ça aussi, je suis bon protestant, je continue de l'affirmer. Mais elle exige une réponse de l'homme. Sinon, il n'y a pas de relation. Ça paraît bien une évidence. Et donc, il n'y a pas de foi. On n'aurait pas besoin d'y réfléchir ce matin. Quant au contenu de la foi, la fides quoi, eh bien, le contenu de la foi est loin d'être absent dans la Bible. Dans le texte, que ce soit au niveau de la théologie, je dirais fondamentale, de l'éthique, de l'ecclésiologie, de la spiritualité, etc. Mais c'est secondaire. C'est ce que je propose comme idée, n'est-ce pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est le principe, à mon avis, ça je le dis toujours, il y en a un qui parle, les autres ils ont au moins la liberté de ne pas y croire. Mais c'est ce que je vous propose à la lecture du texte biblique. Quand je dis que c'est secondaire, ça veut dire que ça vient en second, comme un prolongement du geste initial de confiance. Secondaire, mais absolument nécessaire. Et nous voilà au cœur de notre réflexion. Comment articuler, comment s'articulent ces deux aspects de la foi ? Ma motivation à vous parler de cela ce matin est venue d'une interview à la radio Suisse romande, je pense, ou France, je ne sais pas, que j'ai entendu, et cette semaine, ou il y a peu de temps, d'un psychologue, sociologue, spécialiste de l'adolescence. Un homme qui s'est beaucoup intéressé au phénomène de la perte de confiance des jeunes, qui aujourd'hui se manifeste tous azimuts. Perte de confiance à l'égard de la religion, de l'État, de l'école, de la famille, de la politique, de l'avenir, des autres, de soi-même, etc., etc. Comment, dès lors, se demandait ce scientifique, peuvent-ils renouer avec une pensée plus positive ? Comment peuvent-ils recréer de la confiance ? Et je m'attendais, je l'avoue, à ce qu'il parle de relations privilégiées avec une personne, vous voyez ? Genre processus de résilience, on a tous connu un peu cela. On en a entendu parler, je veux dire. Et puis, une confiance qui puisse ainsi grandir, et puis s'élargir un petit peu, s'étendre à d'autres personnes, à une communauté, à la communauté humaine, peut-être. Mais sa réponse n'était pas cela. Elle était, il pourra renouer avec la confiance, dès qu'il aura refondé les prémices d'un système de croyance. C'est un peu compliqué. Enfin, je leur dis peut-être autrement. Comment retrouver de la confiance? Eh bien, on ne peut pas faire l'économie, disait-il, de réfléchir, de repenser la manière dont on croit, ce qu'on croit, n'est-ce pas? Pas seulement en qui on croit, mais ce que l'on croit. Si je résume, pas de confiance sans croyance. C'était sa réponse. Si cela est vrai pour ce jeune face au monde, pour les jeunes face au monde, je crois que c'est vrai pour nous tous, pour tous les hommes et femmes face à Dieu. Pour suivre Dieu ou Jésus, je dois, à un moment donné, pouvoir considérer sa parole comme fiable, crédible, juste, vraie. En tout cas, parfaitement adéquate à ce que je vis en ce moment. Ça, c'était la force spéciale de Jésus, dont les mots, ou parfois l'absence des mots, touchaient le cœur de ses interlocuteurs. La foi, chers amis, se situerait donc sur un point d'équilibre entre un mouvement de confiance qui ne doit rien à la raison et une adhésion à une parole que notre raison nous pousse à considérer comme vrai. Le problème, peut-être l'imaginez-vous immédiatement, le problème, surtout aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de vérité absolue et certaine. Je veux dire absolument absolue. Et si elle existe, cette vérité absolument absolue, et je crois qu'elle existe, eh bien, je suis tout autant certain de n'y avoir absolument pas accès. Pour preuve de ce que j'avance ici, et qui peut peut-être vous surprendre, chers amis, je dirais simplement que mon opinion a trop souvent évolué et varié pour que je pense le contraire. Il n'empêche, toute pensée, tout discours, compris celui que j'essaye de formuler devant vous, est recherche de vérité, forcément. Mais cette vérité, pour provisoire qu'elle soit en moi, n'est pas, et de loin pas, l'entier de la foi. Je reviens à la foi. Et conclut, fidesquae, l'élan de la foi, ou le contenu de la foi, vous l'avez compris, depuis le départ, il ne s'agit pas d'opposer les deux. On est obligé de le faire pour les définir, bien sûr, mais dans nos vies, ces deux aspects font partie de la même réalité. La foi comme un mouvement, la foi comme une croyance. Si elle n'était qu'un mouvement, elle courrait le risque de se confondre à de l'agitation, à des moments d'émotion peut-être, intense, sans jamais édifier. Si elle n'était que croyance, elle se couperait de l'essentiel, de la relation, de la possibilité d'une intimité avec Dieu. Chers amis, c'est sur cette crête que je vous propose de conclure. C'est jamais bien... Toi, tu fais de la montagne, n'est-ce pas? Quand on est sur la crête, moi, je me dis, on aimerait bien une plaine pour son âge. On est souvent sur la crête. Une crête, ici, entre prise de risque irrationnel, et il y a un peu de ça, je crois, dans la foi, et prise de recul raisonnable. Et c'est à ça que Dieu nous invite ce matin. C'est ce que j'ai envie de partager, en tout cas. Et je crois que Dieu nous dit ainsi, tout simplement, la foi c'est quoi? C'est plus moi qui parle, c'est Dieu, hein, vous avez compris. La foi c'est quoi? Venez et vous verrez. La foi, ça s'expérimente. La foi, c'est une sacrée expérience. C'est une expérience sacrée qui vous amène plus près de moi et qui vous amène plus près de vous-même. Amen.